Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3 à l'émission Boisvert Radio. Je suis Charles Boisvert, on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 21h, jusqu'à 22h plutôt. Il est 21h et 2 minutes. Avec moi autour de la table ce soir, Mathis Bouchard-Rouleau. Bonsoir.
Bonsoir Charles, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Yes, ça va super bien. Bien content d'être là ce soir. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu à Boisvert Radio.
Ah, je crois que mon micro marche maintenant.
Oui, voilà, je t'avais ouvert le micro 2.
Ben, pas de problème.
T'es vraiment autour du mieux.
Ce que je disais, c'était que je suis content d'être là ce soir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à l'émission. Fait que un grand plaisir d'être là ce soir avec toi pour parler de sport jusqu'à 22h.
Oui, puis j'aimais ça parce que tu m'as offert une très belle... Comment dire ça? Une très bonne idée aujourd'hui sur Facebook. C'est quoi ton slogan?
C'était pour... juste avant le dodo...
Termine ta soirée en beauté avec Boisvert Radio.
Termine ton mardi en beauté avec Boisvert Radio. Exactement, oui. T'as commenté justement un beau slogan. Je te le volerai indéfiniment. Ben, y a pas de problème. Écoute, je te le laisse. Ça va faire 75,92 pour le brainstorm du slogan.
On s'en parle après l'émission, mais pour vrai, ça paraît que t'es en pub. Faut te trouver un excellent slogan. Ce soir, très grosse émission en vue. On a un Olympien qui sera avec nous au téléphone, Laurent Dubreuil. Plus qu'un Olympien, un médaillé olympique qui sera avec nous au téléphone, Laurent Dubreuil, probablement le meilleur patineur de vitesse canadien au monde présentement, même le deuxième, peu importe la nationalité, dans tout le monde, derrière l'Américain là, Jordan Stoles, si on se fie là, aux résultats de la saison là, qui s'est conclue il y a quelques semaines de cela en Allemagne. Donc, on est très chanceux d'avoir Laurent Dubreuil au téléphone ce soir.
Quand même, c'est rare du patinage de vitesse qu'on en entend parler, quoi qu'on a quand même eu des vedettes quand même québécoises.
Ouais, ben oui.
J'échappe les noms.
De ce monde.
Charles Hamelin, on a tellement eu des grands noms dans ça. À chaque fois que c'est les Jeux olympiques, moi, j'adore regarder cette discipline-là. Ben oui. Puis quand même, là, Laurent Dubreuil, 3 fois champion du monde, puis médaillé d'argent aux Jeux olympiques en 2022. Fait que ça va vraiment être plaisant de l'avoir. Bravo d'avoir déniché cette entrevue avec lui, Charles.
Puis pour vrai, c'est un retour à Boisvert Radio pour lui parce que il y a 3 ans, presque jour pour jour, je faisais un podcast avec lui et James dans ma chambre.
Hey, ça, c'est cool quand même.
Ouais, j'avais regardé, là, c'était le 4 mars 2021. J'ai réécouté un peu là, avant de venir ce soir là.
Ouais.
Puis non, ça c'est bien le fun, puis il y a bien des affaires qui ont changé depuis là.
Ben
il a fait les jeux, il est devenu médaillé olympique depuis ce temps-là. Il avait été là en 2018 mais il avait pas gagné de médaille. 2022 médaillé olympique depuis ce temps-là. Donc voilà, plusieurs affaires. T'sais, dans le temps, Jordan Stoles avait 16 ans là, et on le connaissait pas dans ce temps-là lui, son opposant numéro 1 présentement. Donc, Laurent Dubreuil, dans quelques minutes, au téléphone. Mais juste avant, là, je voulais qu'on parle un peu des Remparts de Québec parce qu'on a la chance, ici, à Chiz 94.3, d'avoir les Remparts sur nos ondes. Mais cette année, c'est une saison historique pour les mauvaises raisons. C'était prévu là avec la Coupe Memorial l'année passée. On sait que plusieurs joueurs sont partis vers les rangs professionnels. Plusieurs joueurs ont été échangés à d'autres équipes prétendantes là, dans la LHJMQ. Donc on a le résultat après 2 défaites contre le Saint-Nic de Rimouski là, on est 17e sur 18 à la fin là.
Il y aurait eu moyen probablement, tu sais, de justement gagner un de ces matchs là et dépasser Saint-John. Tu sais, c'est dommage, surtout que tu sais, je me rappelle l'an passé, on allait en série au Centre Vidéotron, c'était l'euphorie des séries, Centre Vidéotron était plein et là cette année, c'est comme on est 17e sur 18, c'est pas l'idéal, mais écoute, c'est la LHJMQ, c'est ça hein. On patine des années, on est là, on travaille fort pour justement arriver à 1 ou 2 années où qu'on va être dans le top puis qu'on va se rendre loin.
Ouais.
Heureusement, les Remparts ont gagné l'année dernière. Fait que minimalement, c'est ça. Mais je trouve ça quand même plate pour les partisans un peu parce que c'est pas quelque chose nécessairement qu'on va vivre dans la NHL, par exemple, ou que justement les équipes, ben, ils peuvent rester très bonnes très longtemps ou très mauvaises très longtemps aussi.
Ouais.
Tu sais, on pense à Montréal en ce moment, on est un petit peu tanné. Quoique, il y a quelques années, on a été chanceux dans la finale de la Coupe cette année, mais ça, c'est pas grave. Mais ça reste que je trouve que pour les partisans, c'est comme un petit peu. une pente abrupte à descendre là, cette année en arrivant 17e sur 18 quand on avait fini premier. On avait battu tous les records l'année dernière. Mais après, c'est le format de la JMQ, fait que c'est le développement des joueurs avant tout. Hein.
Tout à fait. Puis je voulais lever mon chapeau aux partisans là, parce que j'ai vu aujourd'hui les Remparts ont publié les résultats de full de toute l'année.
Ouais.
Et crois-le ou non, mais cette année, dans cette saison de misère, là, on termine 17e sur 18. Il y a eu plus de monde qui ont franchi les tourniquets du centre Vidéotron pour venir voir les Remparts que l'année passée.
Ah ouais.
Saison de Coupe Memorial, de Coupe du Président et de Trophée Jean Rougeau.
Quand même. Mais c'est ça, tu sais. Puis je pense que dans la ville de Québec, les Remparts sont devenus. C'est une équipe junior majeure, puis c'est ça qui est la magie de jouer à Québec, je pense. C'est que c'est devenu une attraction avec l'année dernière, tu sais. Mes amis du Saguenay-Lac-Saint-Jean descendent à Québec et me disent, hey, on va-tu aux Remparts? Tu sais, c'est vraiment. Tandis que je pense que quand t'es à Shawinigan ou à Saint-Jean, par exemple, tu dis pas, hey, on s'en va-tu voir les Sea Dogs?
Ouais.
C'est les Remparts, c'est quand même, c'est prestigieux. Ils jouent dans le centre Vidéotron. Puis ça, c'est plaisant qu'ils aient amené ça parce que ça emmène une expérience quand même assez professionnelle aux joueurs de la LHJMQ, justement, avant d'entrer dans le marché des joueurs professionnels.
Tout à fait. Les Remparts, c'est une organisation de calibre professionnel. Puis justement, pourquoi les partisans sont venus? Ben, je voulais lever mon chapeau aussi à l'équipe marketing puis à toute l'organisation des Remparts de s'être renouvelé pour continuer d'amener les gens. On a reçu il y a quelques semaines, là, quelques mois, Félix-Antoine Bourassa qui était venu.
Ouais, c'est vrai, j'étais là.
Justement, t'étais là. Puis non, c'est ça, t'es chapeau à lui et toute l'équipe d'avoir convaincu les gens de venir, t'es d'avoir trouvé t'es la petite raison, t'es le, je sais pas moi, le match des partisans, le match maxi, le match hommage aux 20 ans, etc., etc.
C'est ça, avec des beaux artistes aussi souvent.
Ouais,
avant,
c'est ça, puis les artistes après match, là, t'as les trois accords, t'as Cree and Friends qui sont venus, t'as même un chanteur country, son nom m'échappe, qui est venu de Nashville pour faire juste un show d'après-match des Remparts, t'sais. Fait que c'est tout des à côté comme ça qui rendent l'organisation des Remparts tellement professionnelle. Donc, chapeau aux Remparts. Puis j'ai bien hâte là, de vous retrouver l'année prochaine. Parce que c'est ça, c'est qu'on c'est terminé pour cette année.
On est
le 26 mars.
On y était une fois, je pense. Ben moi, personnellement, j'y ai été une fois cette année parce que justement, tu sais, les résultats étaient pas trop là. J'avais pas trop le temps, mais en espérant que ça va aller en montant et de mieux en mieux. Et j'en suis même pas inquiet là parce que les Remparts sont une belle organisation qui veulent le mieux pour leurs partisans et leurs joueurs.
Exact. Juste avant d'aller au téléphone avec Laurent Dubreuil, on va aller en pause musicale histoire de nous donner le temps de le connecter. Et Mathis, tu vas voir un spectacle vendredi?
Ok, oui, Gab Bouchard, mesdames et messieurs, qui est à l'Impérial de Québec vendredi. Ça va être très bon.
Donc, si comme Mathis, vous allez voir le show de vendredi, ben on vous le prépare avec Tu me connais trop bien à la radio. Puis ben au retour, c'est Laurent Dubreuil au téléphone avec nous. Restez là.
Toi qui pensais à lui, mais je t'en veux pas pour ça. J'aurais dû te garder, mais j'ai compris. Et tu étais trop loin déjà. J'aurais fait la même chose si j'étais toi. J'ai pensé avoir l'air fort, faire comme si nous deux c'était rien. Si tu me voyais brailler au bord, tu comprendrais que je vais pas bien. J'ai voulu mourir, mais j'ai pas le droit. Ah, oh, tu me connais.
c'était Gab Bouchard. Tu me connais trop bien, Mathis. Cette chanson-là me rend jaloux de ne pas venir avec toi vendredi au spectacle de Gab Bouchard. Je suis convaincu que ça va être excellent. On a un invité présentement au téléphone qui s'appelle Laurent Dubreuil. Laurent, qui est un patineur de vitesse longue piste olympique, qui est médaillé d'argent, notamment aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Et c'est un retour à Boisvert Radio pour Laurent Dubreuil, parce que, comme on en jasait là, en mars 2021, là, on avait fait un podcast ensemble. On le rejoint au téléphone. Laurent Dubreuil, est-ce que ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va super bien, merci beaucoup. Donc, merci de revenir à Boisvert Radio après 3 ans. Ça fait un bout, puis il s'en est passé des affaires depuis ce temps-là. Donc, très content là, de pouvoir faire ce soir là, cette mise à jour pour les auditeurs de Boisvert Radio.
Ben oui, mais merci, ça fait plaisir, puis merci de l'invitation encore une fois.
Cette saison, t'as terminé deuxième au classement de la Coupe du Monde. Quel bilan traces-tu là, de ta saison là, qui s'est terminée il y a quelques semaines de ça en Allemagne?
C'était une année, c'était quand même une bonne saison en général. Ça a été une année qui a commencé plus lentement que les saisons normales pour moi. J'ai des problèmes de blessures, problèmes au genou là, à l'automne qui a vraiment ralenti ma préparation, mais à un moment donné, on a été capable de faire les ajustements, puis en deuxième moitié de saison, je me sentais comme d'habitude. Là. Ça a pris quelques mois de plus que prévu, mais au final, j'ai eu des résultats comme je m'y attendais, rendu à l'hiver, là, en janvier, février, mars.
Je remarque ça, plus fur et à mesure que tu passes les saisons, que tu montes en âge, j'ai l'impression que tu t'améliores toujours. On entend toujours plus parler de toi, des bons résultats à des Coupes du Monde. Ouais, c'est des bons résultats des Coupes du Monde, finalement. C'est quoi ton truc pour devenir encore plus meilleur, malgré justement ton âge qui avance aussi?
Ben ça part par la passion. C'est sûr que j'ai 31 ans, je suis pas jeune. Si je regarde la plupart de mes rivaux sont dans la vingtaine, voire même début vingtaine. Le champion du monde, même Jordan Stowe, de 19 ans.
Ouais, 19 ans.
Terminé deuxième derrière lui, mais lui, c'est 19 ans, c'est pas normal, là. C'est une exception, ça aussi, mais c'est sûr qu'à 31 en sprint, je suis définitivement dans les plus vieux. Mais ça part par la passion. Il faut aimer ce qu'on fait si on veut être capable de faire ça longtemps. Mes premières Coupes du Monde, moi, j'avais 19 ans, justement, mes premiers championnats du monde aussi. Fait que, ça fait déjà 12 ans que je suis sur le circuit international. C'est une très longue carrière déjà. Puis, il me reste, je l'espère, encore plein de bonnes saisons, mais c'est aussi. T'aimes plus ce que tu fais ou si t'aimes pas ce que tu fais, tu t'offres pas longtemps comme ça, puis tu seras pas capable d'être performant longtemps comme ça. Après ça, ben il faut aussi éviter les blessures majeures puis rester motivé. Là. Fait que c'est un petit peu ça le trio, là, la motivation, la passion, puis de rester en santé. Là. Puis si t'es capable de garder ces trois-là, c'est sûr qu'il va y avoir des petites blessures, il va y avoir des baisses de motivation temporaires, mais si t'es capable de garder les trois assez un assez bon niveau, puis tes résultats devraient pas. Je devrais pas te dropper trop vite, là. Tu sais, je pense que comme tu le dis, oui, c'est sûr que je vieillis, mais j'ai pas l'impression de d'empirer encore, puis j'y crois encore à continuer à m'améliorer puis à faire mes meilleurs temps à vie la saison prochaine. Donc mais ça part tout de ma passion puis de ma motivation puis d'essayer de rester en santé.
J'ai réécouté un peu notre podcast en 2021 tantôt, puis on parlait de ta préparation en vue des Jeux olympiques de Pékin. Là, maintenant, 3 ans plus tard, on est rendu à la moitié d'un cycle olympique. Tu te prépares sans doute là pour les Jeux olympiques 2026 qui auront lieu à Milan. Comment ça se passe, ta préparation présentement, et comment est-ce que tu envisages justement le 2 ans qui reste avant ces Jeux-là? Parce que dans quasiment 2 ans, jour pour jour, là, ben, les Jeux olympiques de 2026 vont être déjà du passé. Là.
Ouais, exact. Ça va vite. C'est une chose qui quand on vieillit, la vie passe plus vite. Là, les gens qui nous écoutent, qui ont, je suis pas si vieux que ça dans la vie, je suis vieux pour un athlète, mais je suis pas vieux dans la vie, mais les saisons sont de moins en moins longues de la façon que je les perçois. Ça passe vite, c'est ça que je veux dire. Puis déjà la moitié du cycle olympique, c'est comme j'ai l'impression que les Jeux de Beijing c'était hier. Là, c'est quand même fou. Mais la préparation va bien. Moi, de la façon que je le vois, c'est oui, l'objectif ultime, c'est encore une fois, c'est les Olympiques en 2026. Puis, je trouve que j'ai une bonne posture, j'ai un bon niveau, j'ai des bonnes chances de médaille encore. Mais deux ans, c'est loin, là. Tout peut arriver d'ici là. Mais aussi, c'est que j'ai pas la pression d'avoir gagné une médaille. J'en ai une médaille olympique depuis Beijing. Fait que tu sais, moi, je suis pleinement satisfait de ma carrière. J'en ai des titres de la Coupe du Monde, de champion du monde, de médaille olympique. Fait que tu sais, si j'en gagne pas au prochain jeu, c'est pas plus grave que ça. Fait que je vais être détendu, je suis pas stressé à y penser pantoute. Mais c'est sûr qu'en même temps, c'est pas parce que je suis satisfait de ma carrière que j'ai plus envie d'être bon ou j'ai plus envie de gagner. Tu sais, l'envie est encore là, c'est le stress qui est comme plus là. Mais ma façon de me préparer pour un événement comme ça, c'est justement de pas y penser trop tôt. Dans le sens que je pense tout le temps juste à la saison qui s'en vient. On vient juste de finir, comme tu disais, en Allemagne, la saison 2023-2024. Puis la prochaine saison, ben 2024-2025, la grosse compétition de l'année, c'est les championnats du monde 2025 qui ont lieu en Norvège en mars 2025, fait que dans 11 mois à peu près, là, 10 mois, 11 mois et demi. Fait que c'est cette compétition-là surtout qui est encerclée sur mon calendrier en ce moment, puis c'est plus pour ça que je me prépare. Parce que les Olympiques, c'est dans tellement loin que quand c'est trop loin ton objectif, tu peux le perdre de vue un peu, là, tu sais, ouais. Tu peux perdre la motivation, puis c'est pas grave si je fais pas cet entraînement-là, c'est dans 2 ans, tu sais. Mais si t'as des objectifs plus à moyen terme, à court terme, comme mon gros objectif de la saison prochaine, c'est le championnat du monde-là, mais j'ai des objectifs spécifiques à mes entraînements tout l'été, tu sais, ben, au squat, je veux faire tel poids, au saut vertical, je veux sauter ça de haut, puis même si c'est pas des objectifs de patin, mais vu que c'est à court terme, ça me garde engagé dans mon programme d'entraînement, fait que c'est un petit peu comme d'essayer d'être 1% ou 0.1% meilleur à chaque jour, à l'année longue, ben, si t'es capable d'être 0.1% meilleur à chaque jour, tous les jours de l'année, à la fin de l'année, t'es bien meilleur que t'étais au début.
Ah, je t'écoute parler, puis c'est vraiment ça la mentalité à avoir. Là. Quand tu vois un objectif trop loin, ben tu fais pas assez attention aux petites étapes pour y arriver à ton objectif, parce que tu dis, bah, j'ai le temps encore. Puis non, ça, c'est vraiment la bonne mentalité à avoir. Tu as mentionné les Jeux de Pékin, justement, puis on l'a dit également, tu as remporté la médaille d'argent aux 1000 mètres juste avant. Tu as terminé le 4e aux 500 mètres. Comment est-ce que tu as vécu là, ces Jeux olympiques-là, puis aussi le retour avec la médaille au cou au Canada?
Ouais, ben ça a été rocambolesque, parce que si on m'avait dit que j'allais finir deuxième sur une course puis quatrième sur une autre, j'aurais dit deuxième au 500, quatrième au 1000. Là, ça aurait été ça ma prédiction. Tu sais, en arrivant aux Olympiques, j'avais 8 médailles en 8 courses aux 500 mètres en Coupe du Monde. Puis au 1000, j'en avais 0 sur les Coupes du Monde qu'on avait faites. Fait que tu sais, c'était comme... C'était pas normal de la façon que ça s'est passé. C'était peut-être normal que je sorte des jeux avec une médaille d'argent. Au 500, ça n'aurait pas été surprenant. Ça aurait été fair. Puis au 1000, c'est une surprise. Mais fait que je l'ai gagné sur ma moins bonne des deux distances. Puis le 500 était en premier. Donc, tu sais, j'ai fini quatrième. Ça a été une énorme déception parce que, je veux dire,
ben, t'avais gagné 8
c'est
médailles.
Bon, mais c'est crève-cœur. Puis tu sais, moi, j'allais là pour gagner une médaille. Fait que, tu sais, quatrième, j'étais à 300e du podium, fait que c'est 300e de seconde. Quand on cligne des yeux, un être humain, c'est 10 centièmes de seconde, là, le temps d'y rouvrir. Fait que c'est 3 fois moins long, moins de 3 fois moins long qu'un clignement, un battement d'yeux. C'était ça qui me séparait du podium olympique au 500. Fait que c'est tough à accepter. Puis, ben, pas tough à accepter dans le sens que, oui, OK, il y a 3 gars meilleurs que moi cette journée-là, mais c'est tough de dire, bon, ben, c'est dans 4 ans que je vais avoir une autre chance. T'sais, parce qu'aux Olympiques, c'est aux 4 ans. C'est pas les championnats du monde qu'on a chaque année. C'est pas une Coupe du monde, il y en a plusieurs par année. C'est long avant de réavoir une autre chance. Là. Mais là, le lendemain, je me suis dit, bah, regarde, le 500, c'est dans 4 ans, mais il y a 1000 mètres dans 6 jours ou dans 5 jours. Là, c'était 6 jours après le 500. Puis, qui sait, je suis pas mauvais au 1000. Je suis pas dans les grands favoris, mais t'sais, j'étais pas 60e au monde non plus. Là, j'étais... Je pense que j'étais classé 8e au classement de la Coupe du Monde. Fait que, regarde, peut-être qu'avec une méga surprise, on sait jamais. Puis, ben, j'ai eu mon meilleur 1000 mètres à vie. Ça a été assez pour finir deuxième. C'était assez incroyable comme émotion. Après l'énorme déception, plus grosse déception de ma carrière, de revenir le 6 jours plus tard avec le plus grand succès de ma carrière, je m'y attendais pas. Puis, ça l'a rendu plus spécial, en fait. C'est l'expérience olympique, ce que j'en ai retiré, mes souvenirs. C'est beaucoup plus fort puis marquant que si j'avais fini 2 au 500 puis 4 au 1000 mètres. Ça aurait été normal, tu sais. Ça aurait juste été, bon, regarde, oui, je suis médaille olympique, mais c'est ça que je valais. Tandis que là, je me suis surpris puis je suis allé chercher cette médaille-là avec une résilience, une force de caractère que je savais même pas que j'avais, tu sais, d'être capable de revenir comme ça après une énorme déception. C'était comme un... un beau moment pour moi, puis un bel exemple pour le reste de ma vie, là, comme je sais quand ça va être tough, je suis capable de rebondir.
Bonsoir Laurent, je suis collaborateur avec Charles ce soir. J'ai une petite question pour toi, là. C'est simple. En fait, tu sais, t'en vis souvent des lignes de départ, mais c'est quoi le feeling d'une ligne de départ des Jeux Olympiques? Parce que c'est une fois aux quatre ans, c'est quoi cette sensation-là, le feeling que t'as avant de décoller la course? Tu sais, t'es à une course d'avoir une médaille olympique, ça change ta vie, comme t'es à un coup de fusil aussi de complètement peut-être être déçu par rapport à ta carrière, tout au long de ta carrière. C'est quoi le sentiment qu'on a? C'est quoi le stress que tu vis à ce moment-là?
Ouais, c'est une bonne question, puis c'est parce que tout est amplifié aux Olympiques, tu sais. Oui, au championnat du monde, t'es stressé parce que tu te dis, ok, je vais s'entraîner toute l'année pour ça, tu sais, mais si ça marche pas, ben, il y a le championnat du monde l'année d'après, tu sais. Les Olympiques, 4 ans, c'est long, là. C'est presque impossible de s'imaginer d'être sur la ligne, là, 4 ans suivants, là, tu sais. Pas qu'est-ce qui peut arriver d'ici là, tu sais. Je trouve ça long c'est dans 2 ans, les Jeux, puis je trouve que c'est trop long pour me projeter vers le futur. Fait que quand t'arrives aux Olympiques, c'est possiblement la dernière fois que tu es sur la ligne aux Jeux Olympiques. Là. Puis, c'est un stress énorme parce que tu t'es entraîné toute ta vie pour ça. Tu t'es entraîné toute ta vie pour gagner cette médaille-là. Puis, je veux dire, ça veut pas dire que ça va passer. Là. Il y a tous les gars sur la ligne qui vont s'entraîner toute leur vie pour ça. Puis, il y a juste 3 personnes qui gagnent la médaille au final. Mais faut que tu aies de la perspective. Faut que tu aies quelque chose pour balancer ou contrebalancer un peu cette pression-là. Sinon c'est très 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 difficile de rester lucide puis de rester dans une bonne zone pour faire une bonne course. Là. Fait que la façon que je suis capable de gérer ça, c'est parce que j'ai une famille, en fait, c'est parce que j'ai des enfants, puis quand j'arrive sur la ligne, je me dis pas, regarde, tu sais, si j'ai pas de médaille, ma vie est finie. Je me dis, si j'ai pas de médaille, je vais être déçu, mais ma vie est pas finie parce que ma vie c'est pas le patin, ma vie c'est ma famille. Puis le patin, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis. Beaucoup d'athlètes se définissent par le sport. Puis quand tu te définis par le sport, l'échec, c'est, tu sais, il y a des athlètes qui font des dépressions parce qu'ils ont une mauvaise performance. Il y en a plein. Il y en a en patin, il y en a dans tous les sports. On le voit tout le temps. Puis c'est malsain, mais c'est très difficile à pas se sentir comme ça quand t'as rien d'autre dans ta vie. Mais moi, j'ai de quoi de plus gros, plus important pour moi. Fait que j'arrive sur la ligne. Puis oui, je suis stressé, mais c'est pas un mauvais stress. C'est plus comme je vais aller chercher quelque chose. Mon coach, il dit souvent, en fait, regarde, t'as rien à perdre, t'as rien encore. T'arrives au jeu, t'as pas de médaille, là, en arrivant, là. Tu sais, je veux dire, c'est faut que t'ailles en chercher une, puis si tu n'en gagnes pas, ben, tu reviens à la maison comme t'étais avant de partir de chez vous, là. Tu sais, tu t'es pas fait enlever rien, là. C'est que tu ne reviens pas avec une médaille, mais t'en avais pas en y allant non plus. Fait que, tu sais, faut que t'ailles chercher quelque chose. Fait que tu vas chercher quelque chose. Gagner quelque chose, pas essayer de pas perdre. Tu vas aller essayer de gagner, puis si ça passe pas, ben t'as autre chose dans ta vie pour un petit peu comme amoindrir la déception. Uh-huh. Là, puis ça marche vraiment beaucoup pour moi.
Et là, justement, vient ma prochaine question. T'as parlé de tes enfants. Comment ça se passe, la conciliation travail-famille d'un athlète olympique, champion du monde, qui voyage un petit peu partout tout le temps, qui doit s'entraîner? Comment ça se passe à la maison et dans ta famille?
Il y a du pour et du contre. Je veux dire, ce qui est plus dur avec la famille, c'est les voyages. Tu sais, dans le sens que moi, j'aime ça les compétitions, j'aime ça les coupes du monde, j'aime ça les championnats du monde. Oui, j'aime ça m'entraîner, mais ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'essayer de battre les meilleurs au monde. C'est la journée de la course, le stress de gérer ça, d'arriver, après ça de gagner, puis le feeling, le rush d'adrénaline avant puis après la course, c'est ça que moi j'aime. Mais par contre de partir, tu sais, c'est la partie que j'aime pas. Avant ça j'aimais ça, mais c'est plus du tout la partie que j'aime. C'est de loin l'aspect le plus négatif de mon travail, là, qui est fasciné, de ma job. Là. J'ai pas l'impression de travailler, là, mais on s'entend. Mais les moments que je suis à la maison, c'est magnifique, en fait. Là, j'en ai plusieurs amis sur le circuit qui ont des enfants. C'est surtout des pères, on s'entend. Là. Il y a une ou deux mères sur le circuit, là, mais c'est beaucoup plus dur pour une femme de le faire. Là. Parce que, je veux dire, de quitter des enfants comme ça quand t'allaites et tout, c'est presque impossible. Mm-hmm. Mais, pardon, pour nous, les pères sur le circuit, là, la plupart sont européens parce que nous, on est souvent en Europe, fait qu'eux voyagent moins, j'imagine, mais on aime ça l'été, là, l'entraînement hors saison. Là, j'étais à la maison, puis oui, je m'entraîne fort, puis je vous le garantis, je m'entraîne fort, mais c'est quand même pas un... C'est quand même moins d'heures qu'un travail normal, là, dans le sens que c'est pas 40 heures semaine d'entraînement. Mon corps est pas capable de s'entraîner 40 heures dans la semaine. Je serais moins bon si je l'essayais. Ce serait un moment où ça serait juste clairement trop. Fait que j'ai beaucoup d'après-midi off. Des fois, j'ai juste un entraînement par jour. Des fois, j'en ai deux. Mais même quand j'en ai deux, je reviens dîner à la maison. Je déjeune, je dîne, je soupe à la maison. Quand j'ai rien l'après-midi, je peux jouer avec les enfants. T'sais, on peut aller dans la piscine l'été, on peut aller au parc, on peut se promener, on peut aller marcher. J'ai beaucoup de temps libre, j'ai une flexibilité d'horaire que peu de gens ont dans leur emploi. Fait que l'été, c'est vraiment comme une vie de rêve. Là. Moi, ma job, c'est de m'entraîner une ou deux fois par jour, ce que j'aime beaucoup faire, puis après ça, je passe du temps en famille. C'est merveilleux, puis c'est juste après ça, c'est les voyages là où c'est plus difficile, puis c'est plus difficile pour moi, mais encore plus pour eux, puis encore plus pour mon épouse qu'il faut qu'ils gèrent deux enfants de façon comme si c'était mère monoparentale pendant un mois ou deux là, quand je suis parti. C'est surtout ça qui est tough, puis je suis extrêmement reconnaissant à elle d'être capable de le faire puis de gérer. Je veux dire, moi je sais que je serais pas capable de faire ce qu'elle fait. Fait que je suis dans le sens que je sais à quel point ça peut être épuisant, une journée de travail, puis après ça de revenir, puis t'as deux enfants à la maison. Faut que tu les amènes à la garderie, faut aller chercher, cuisiner les repas, puis t'as pas de temps pour toi là, de qu'elle soit capable de le faire comme ça, puis elle me permet de continuer pour quelques années encore. Je suis vraiment reconnaissant. C'est surtout ça qui est tough, mais quand on arrive là en ce moment là, je veux dire, la saison est terminée, le printemps, l'été, c'est des moments magiques en famille. Là, je suis quasiment à la maison toute la journée.
Je vois le temps passer, là. Il me reste deux questions. On va y aller en vitesse. Une autre affaire qui a changé depuis notre dernier podcast ensemble, c'est l'arrivée du centre de glace Intact Assurance à Québec, qui a été un gros game changer pour le développement du patin de vitesse au Québec, mais aussi pour ta carrière. Comment est-ce que, justement, ce game changer-là est venu bouleverser ta vie?
Ben en fait, pour commencer, pour rester sur le thème des enfants, là, si j'étais pas du centre de glace, je pense que je serais déjà à la retraite. Qu'avant, on voyageait 4 mois et demi par année pour les compétitions. Puis là, en ce moment, c'est plus comme 2 mois, 2 mois et demi.
OK.
Puis ce 2 mois-là fait toute la différence. T'sais, d'être parti 2 mois, 2 mois et demi dans l'année, on est capable de le gérer là, dans notre famille. Puis c'est ça, mon épouse est capable, mais quand je fais 4 mois et demi, elle serait peut-être capable, mais j'aurais pas envie d'y imposer ça, puis j'aurais pas envie de pas voir mes enfants pendant plus de 4 mois non plus, là. Fait que, déjà là, c'est aussi simple que ça, mais également, pour la qualité de notre entraînement, c'est énorme la différence. C'est-à-dire, on s'entraînait dehors avant, à l'anneau qui est embouché, là, ceux qui le savaient, c'est au même endroit, là, mais il faisait moins 20 degrés le matin avec un vent de face dans le virage. La glace était atroce parce qu'il y a l'autoroute Henri IV juste à côté, puis le sel qui était mis sur la route, les autos et les camions qui roulent à 100 km/h, le sel, tu sais, le nuage de vapeur de sel s'avançait sur la glace était scrap, complètement scrap. Là maintenant, on passe de ça à des installations exceptionnelles, une qualité de glace top mondiale. Tu sais, on a eu une Coupe du Monde cette année à Québec en février, là, la première Coupe du Monde que j'ai jamais patiné à la maison au Québec. Puis les temps étaient bons, là. C'est une belle glace. C'est vraiment un des meilleurs anneaux au monde. Fait que c'est comme on passe du pire au meilleur. On patine à l'année. On accède à la glace à partir du mois de juin. Avant, c'était pas avant novembre. Fait que non seulement je patine encore à cause de ça, mais aussi je patine dans des super bonnes conditions. Puis ça nous aide vraiment à avoir des bons résultats internationaux.
Et en terminant, on est un peu collègues de classe parce que tu étudies en communication à l'Université Laval. Comment ça se passe justement tes études alors que tu es souvent parti, là je vois Mathis qui était visiblement pas au courant.
J'étais pas au courant.
Comment ça se passe justement de concilier ces études-là avec justement ton travail, ton patin et justement en vue, j'imagine, de la préparation d'un après-carrière?
Ouais, ben c'est sûr que ça a été plus long finir mon bac que ma cohorte initiale, c'est sûr. Ça va avoir pris 9 ans. Parce que justement, je finis là, c'est mon dernier cours que je fais actuellement. Là, fait que on va passer à travers, ça va avoir été long, mais mon but, ça a toujours été oui, le patin, c'est mon travail, oui, je suis capable d'en vivre en ce moment, mais je suis pas capable d'en vivre pour toute ma vie, tu sais, dans le sens que je suis pas joueur de la Ligue nationale avec des millions, là. Fait que ouais. La seconde que j'arrête le patin, il faut que j'ai un autre plan, là, une deuxième carrière. Fait que mon but, ça a toujours été de finir mon bac avant de prendre ma retraite sportive. Puis c'est sûr que ça dépendait, j'allais pas te dire jusqu'à quel âge, mais là, c'est ça, il me reste encore au moins 2 ans de patin là, d'ici les Olympiques, possiblement plus, on verra bien après, mais de finir mon bac avant ça, je réalise mon objectif, puis ça va avoir été comme... Au début, ça me semblait interminable. Tu sais, je veux dire, 90 crédits quand t'en prends 6 de la shot, là, ouais, je prenais un ou deux cours par session, là. Tu te dis, je finirai jamais, ça n'a pas de bon sens. Mais à un moment donné, là, ça avance, puis là, t'es rendu, tu passes la 45, puis là, tu comptes plus vers progressivement, tu comptes un compte à rebours, là. Tu sais, bon, là, il me reste 45, là, il me reste 42, là, il me reste 39. Fait que là, tu vois la lumière au bout du tunnel, puis ça va avoir été une histoire de persévérance plus que d'autre chose, parce que c'était ce qui est top, j'ai jamais eu une grosse charge de travail à l'école, c'est juste qu'avec les voyages puis les cours qui se donnaient pas tous à distance puis ouais. En plus je gérais ça avec les enfants aussi, c'était juste comme essayer de gérer l'horaire, ma gestion d'horaire du temps puis à travers les entraînements, puis malheureusement pour nous c'est, tu sais, le bout où j'aurais pu faire le plus de cours c'était l'été, mais il y a pas tant que ça de cours de com qui se donnaient l'été, là, j'ai fait toutes mes cours options l'été, mais je pense que j'ai juste été capable de prendre 2 cours de com l'été. Effectivement, s'il y en avait eu l'été, j'aurais probablement fini il y a 2-3 ans, mais c'est ça. J'ai été capable de finir, puis ça a bien été, mais je pense que j'ai un peu passé à côté de mon expérience universitaire à cause de ça, par contre. Je connais personne dans mes classes, puis à un moment donné, je connais quelqu'un, puis là, oups, l'année d'après, il est rendu en 3e année, j'étais en 2e année encore, puis c'était juste... passer à côté de ça, mais je veux dire, c'était un sacrifice comme un autre pour mon travail, là. Je veux dire, j'étais conscient, mais je me suis senti comme un peu comme si j'étais en retour aux études, mais c'était pas ça pour tout. J'ai jamais arrêté d'étudier, c'est juste ça a pris 10 ans, mais je suis content de dire que j'ai finalement fini. Mes parents vont être contents que je finisse. C'est eux autres qui m'ont mis le plus de pression que je finisse, puis je suis très reconnaissant qu'ils aient fait ça, là. Ça me prenait ça par bout.
Excellent. Eh ben merci beaucoup, Laurent, d'avoir pris le temps là, de nous jaser ça ce soir. Je te souhaite d'excellentes vacances, parce que là, tu dois... tu continues de t'entraîner, mais t'as plus de temps pour en profiter, justement, avec ta famille. Mm-hmm. Je te souhaite aussi le mieux aux Jeux olympiques de Milan 2026. On s'en reparlera peut-être après les Jeux de Milan. Puis aussi, félicitations là, pour ta graduation.
Merci beaucoup, c'est gentil, puis merci de m'avoir invité, c'était belle fun.
Yes, excellent. Bonne fin de soirée, Laurent, au revoir.
Salut, boys.
Et voilà, c'était Laurent Dubreuil, patineur de vitesse olympique.
Et notre collègue de classe.
Et notre collègue de classe à moi et Mathis. Je pensais que tu le savais, mais bon.
Non, je savais pas ça, mais avoir su, crime, je me serais mis pour faire un travail avec lui.
On l'aurait fait à sa place.
Ça m'aurait fait plaisir, Laurent.
Ouais, ben c'est ça. Gagne-nous une médaille olympique, puis nous, on va faire ton école. Excellent. Donc, on s'en va en pause pendant environ 2 minutes. Et Mathis, on se reparlera après. Donc, il reste Restez avec nous à Boisvert Radio sur les ondes de Schiste 94.3. On est de retour dans quelques instants.
Écoute locale avec Schiste 94.3.
En Moukaosit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosit. Anmukeosit, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Va te prendre une autre bière, Jacques.
Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière et l'eau.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudonc, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Schiste, 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur la zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi, de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Avant la pause, on a pu parler avec Laurent Dubreuil, un patineur très inspirant et très, très performant également dans son sport.
Oui.
Donc Laurent Dubreuil qui était avec nous au téléphone il y a quelques instants. Pour vrai, excellente entrevue. Je retiens surtout ce qu'il nous dit à propos de son travail, les objectifs, y aller au jour le jour, être 0,1% meilleur que t'es le... que quand tu t'es levé le matin. Donc voilà,
c'est le fun de parler à des athlètes, justement ce que je te disais là, pendant la pause, à des athlètes olympiques de sport qu'on connaît pas nécessairement beaucoup. Parce que tu sais, le patin de vitesse, c'est zéro médiatisé. On en parle un petit peu justement comme on a dit parce qu'on a des bons athlètes québécois, mais comme ça pourrait tellement être plus mis de l'avant. Et etc. Fait que vraiment une belle entrevue là, très humain, très gentille personne aussi là. C'était vraiment super. En espérant qu'on puisse y reparler à son retour des Jeux Olympiques en 2026 ou sur le marché du travail en communication.
Ouais, ben c'est ça exactement. Là, tes Boisvert Radio, ça va te stuffer jusqu'en 2027.
Ah, on le sait pas. C'est peut-être pas la radio du peuple. La prochaine radio qui la prochaine grande radio, on sait jamais.
On sait jamais. Donc voilà, si jamais vous avez manqué ou vous êtes arrivé en plein milieu de cette entrevue avec Laurent Dubreuil, ben je suis très désolé pour vous, mais il y a une façon d'écouter ou de réécouter cette entrevue. Vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. Également, les rediffusions vont être en ligne sur Spotify et sur Apple Podcasts. Donc probablement, ça va sortir là, d'ici la fin de la semaine. Donc, entrevue très inspirante avec Laurent Dubreuil. Je vous invite fortement à aller faire un tour et réécouter cette entrevue parce que pour vrai, comme on le mentionnait, là, pouvoir concilier patin, compétition à travers le monde avec famille, avec études. Wow!
Ouais, wow. J'ai rien d'autre à dire que wow. Non, mais honnêtement, c'est ça. C'est vraiment des grandes choses sont capables de faire ces athlètes-là. T'sais, ils disaient « Ah, je m'entraîne par jour, deux fois par jour. » Ils disaient ça tout banalement. Pis c'est comme « Tabarouette, j'ai de la misère à aller une fois au gym dans la semaine. »
Dans le mois, mais, Mathis.
Dans le mois, dans les deux mois, dans les trois mois. Mais tu sais, c'est fou à quel point ça prend quand même une force de caractère. Puis faut tellement avoir la passion, faut être persévérant surtout. Puis c'est justement quand on va chercher des honneurs comme une médaille olympique, des choses comme ça que tu te dis, crime, tous les efforts ont payé, tu sais, finalement. Puis comme il disait, lui, il a ses enfants, fait qu'il se rattache pas juste au sport. Fait que ça, je pense que c'est un bon truc justement pour être capable de se détacher un peu de ça, parce qu'à un certain moment donné, ça peut tellement devenir, ben pas toxique, mais comme t'es tellement tout le temps là-dedans, addictif, la gagner, tu sais, la victoire, c'est addictif, mine de rien. Fait qu'à un certain moment donné, tu deviens fou un peu, là, puis tu penses juste à ça. Fait que c'est cool d'avoir d'autres choses à côté pour être capable là, de bien vivre toute cette pression.
Tout à fait. Puis rapidement, Mathis, avant de passer à autre chose, je m'étais noté, Laurent a beaucoup parlé puis nous a appris beaucoup d'affaires. Donc il y a beaucoup d'éléments de ma préparation d'entrevue que on n'a pas pu parler. Puis justement, comme je te mentionnais tantôt là, j'ai écouté justement le podcast que j'avais fait avec lui il y a 3 ans. Puis je voulais le relancer sur une anecdote qui nous avait conté l'autre fois. C'est quand même super drôle. C'est les championnats mondiaux à Erenvin en 2015. Et ces championnats du monde-là sont au mois de février. Et qu'est-ce qu'il y a pendant le mois de février? Ben, il y a le Super Bowl.
Oui.
Et Laurent Dubreuil est un grand fan de football. Et il est arrivé à Erenvin aux Pays-Bas 2 à 3 semaines avant la compétition, parce qu'il y avait une Coupe du monde avant.
Okay.
Et parce que, ben, il se préparait avec à cet endroit-là. Et là, en Europe, t'sais, on a un décalage horaire qui est assez, assez frappant comparé, ouais, comparé au Québec. Et le Super Bowl, Laurent s'était réveillé en plein milieu de la nuit pour l'écouter. Un grand fan des Patriots de Nouvelle-Angleterre. C'était le Super Bowl entre les Patriots et les Seahawks avec l'interception à la ligne de 1 à la toute fin du match. Oui. Là, les Patriots avaient gagné 28 à 24 contre les Seahawks. Et le lendemain matin, son entraîneur ne le savait pas.
Okay.
Mais le lendemain matin, à l'entraînement, il se barre le dos. Pas assez dormi, je sais pas pourquoi, il se barre le dos. Donc là, son entraîneur a finalement découvert ça. Il était un peu fâché. D'autant plus que Laurent était un grand espoir de médaille pour ces championnats du monde-là. Finalement, il a gagné sa médaille quand même.
Ah ben ouais, donc, okay. il y a eu le meilleur des deux mondes, mais un entraîneur peut-être un peu fâché.
Ouais, c'est ça. Son entraîneur lui a pardonné depuis parce que justement, il a quand même eu la médaille. Il y a eu le résultat qu'il souhaitait. Donc, quand même une très drôle d'anecdote. T'sais, il comptait ça à des jeux en Corée du Sud, regarder le Super Bowl en déjeunant. Ben oui, pourquoi pas à 8h le matin. T'sais, c'est quelque chose que.
C'est sûr, je comprends, tu sais. Je veux dire, en Corée du Sud, il y a moyen de trouver des ailes de poulet puis déjeuner avec ça si tu veux. Hein.
Exactement. Je voulais parler rapidement des séries dans le N18-3A parce que dans la région ici de Schiste 94-3, je te dirais Appalaches, on a deux équipes, soit le Bizarre du Séminaire Saint-François et les Chevaliers de Lévis. Malheureusement, pour les Chevaliers, leur chemin s'est arrêté il y a quelques semaines de ça. Mais hier, à l'Arena de Saint-Augustin, on a eu un match exceptionnel entre le Bizarre du Séminaire Saint-François et les Forestiers d'Amos. Les Forestiers, vous vous souvenez peut-être de Emery, notre collaborateur d'il y a quelques semaines. Emery, fier de représentant de l'Abitibi. Donc, l'équipe de sa région était de passage là, à Saint-Augustin hier. Et pour vrai, le Blizzard nous ont habitués depuis le début des séries à gagner, mais tard. Parce que le match numéro 1 de la série contre les Estacades de Trois-Rivières s'est rendu en deuxième période de prolongation. Et là, ben hier, on a eu encore une deuxième période de prolongation. Et encore une fois, ben le Blizzard a gagné. Donc ensuite, là, ben c'était la série... C'est compliqué le format des séries dans les N18-3A, mais c'était la série de repêchage numéro 3. Donc en gagnant ça, le Blizzard s'en va en demi-finale de la Ligue contre les Cantonniers de Magog. Okay. Parce que en gros, les équipes qui perdaient leur série avaient l'occasion de revenir dans le tableau principal via une série de repêchage, des matchs sans lendemain, des matchs suicides contre d'autres équipes qui ont été éliminées. Donc là, en ayant perdu en finale de division contre Trois-Rivières, le Blizzard a été envoyé à la série de repêchage avec les deux autres perdants de division et l'équipe qui avait remporté la série de repêchage numéro 2. Le Blizzard s'est finalement ramassé dans la finale de cette série de repêchage numéro 3 contre Amos, a gagné. Et là, il a joué contre les Cantonniers de Magog. Une série qui commence dès demain soir à Magog. Et si on regarde le classement de la saison régulière, ben c'est les deux meilleures équipes au classement qui vont s'affronter dans cette demi-finale. Donc, finale avant la finale, peut-être. Mais imagine si le Blizzard gagne sa série contre Magog, Trois-Rivières gagne sa demi-finale contre les Vikings de Saint-Eustache. Et on retrouve en finale de la Coupe Jimmy Ferrari, encore une fois, pour un autre 3-5.
Le Blizzard et les SSF
contre Trois-Rivières. Ouais. Ça serait une très drôle histoire qui est justement rendue possible là, avec cette formule de série de repêchage-là dans le N18-3.
Je souhaite pleinement au Blizzard de gagner encore une fois cette année. Ouais. C'est toujours des beaux moments pour les jeunes et même pour toi. c'est vrai, tu sais, je veux dire, t'es avec l'organisation de l'équipe, fait que ça fait en sorte que c'est certain que c'est plaisant quand ils gagnent. Je veux dire, c'est quand même la ligne de 3. Fait que, mais c'est quand même quatre gros clubs qui sont là en demi-finale. Il n'y a pas de surprise, je pense, à voir ça comme ça.
Ben non, pas vraiment. On se serait attendu peut-être à ce que les Lions du Lac-Saint-Louis puissent se rendre un peu plus loin. Eux qui avaient terminé 5e et qui avaient dans leur rang le meilleur gardien de la Ligue, William Lasselle. Mais les Lions ont perdu contre les Forestiers dans la demi-finale de la série de repêchage numéro 3.
Donc, c'est dur à suivre.
Oui, exactement, un peu. Donc là, les Forestiers se sont ramassés contre les Bizarres. Et après ça, du côté des Estacades, je dirais que les Estacades, c'est un peu l'équipe Cendrillon là, depuis le début des séries. Étant donné qu'ils ont battu les Chevaliers qui n'étaient pas supposés battre, entre guillemets, étant donné là, sont aussi à la position du classement en saison régulière. Ouais. Et également, là, Ensuite, aller battre le Blizzard dans une série 3-5, c'est assez étonnant. Mais après ça, si on regarde le Saint-Eustache, Magog et le SSF, c'est les trois équipes qui avaient été les trois champions de division. Donc, pas tant de surprises, mais quand même Trois-Rivières, si on les regarde,
ouais,
sixième au classement général.
Ouais, quand même une petite surprise pour Trois-Rivières. Ouais.
Ouais, exactement. Donc, on va voir là, comment ça se passe. Évidemment que l'équipe qui va remporter là, la Coupe Jimmy Ferrari ira au championnat canadien. Et peut-être, ben, le Blizzard pourrait le gagner une deuxième année de suite. T'sais, comme tu le mentionnais, là, c'est des beaux moments. Là, hier, quand le but a été, quand William Vézina a marqué le but en deuxième prolongation, là, j'ai sauté de ma chaise. Là, qu'est-ce que tu imagines? J'étais sérieux, le presse, bien sérieux, en train d'écrire mon article. Puis là, quand le but a été marqué, hey, j'étais content. Là.
Ah, mais c'est clair. Puis je veux dire, là, c'était dans le fond, si il perdait, dans le fond, là, Amos s'est éliminé avec
ouais.
ça. Là.
Oh, ouais, si le Blizzard perdait, t'sais, on a eu deux prolongations que c'était genre le prochain but gagné.
Ah, ouais, c'est ça. Okay, ben
c'est stressant, là. Puis je regarde, là, ces joueurs-là, là, ils ont 15, ils ont 16, hein. ils ont 17 ans, là. Hey, c'est des grands moments pour leur jeune carrière, là.
C'est, non, c'est ça. Mais imagine, justement, lui qui marque le but, c'est comme, d'abord, ouais. Tu sais.
William Vézina l'a dit après le match, au micro de Jean Carrier du Soleil, c'est le but le plus important de ma carrière.
Ben oui, c'est clair.
C'est clair.
On leur souhaite toutes les victoires possibles, puis on va prier, là, pour qu'ils se rendent le plus loin possible en série et plus loin possible aussi dans le championnat canadien. Ce serait cool. Deux années en deux quand même. Là.
Ça serait le fun. C'est l'équipe de la région. Donc, en terminant sur ce sujet-là, je vous invite dimanche, si vous avez un après-midi de Pâques là, avant votre souper de libre, ben, vous pouvez aller voir là, le match numéro 3 de la série qui va être à l'Aréna de Saint-Augustin. Donc, c'est vraiment à 20 minutes de l'Université Laval là, pour ceux que ça pourrait intéresser. Là. Avec les Remparts qui sont éliminés, c'est le plus gros hockey qu'on a présentement à Québec.
Ouais. Donc, tous les amateurs de hockey, vous n'avez pas d'excuses.
Exactement. Je vous invite fortement là, d'aller voir ce match numéro 3-là qui va être à Saint-Augustin. C'est une série 3-5. Donc, si jamais il y a un match numéro 4, il aura également lieu à Saint-Augustin. Et il sera lundi soir, donc le lundi de Pâques. Vous avez probablement congé aussi cette journée-là. Donc, à 19h là, à Saint-Augustin pour le match numéro 4, si jamais on en a besoin. Dans ouais. cette série.
Ça va être une grosse série.
Ben, c'est
crois.
Ça, c'est les deux meilleures équipes de la ligue, donc probablement qu'on va voir là, une série.
Je pense que ça vaut la peine d'aller voir ça.
Mathis, en fin de semaine, je fais un petit voyage aux États-Unis.
Ben oui, mon chanceux.
C'était super le fun. On est allé avec justement là, des collaborateurs. Je vais finir par réussir à parler. Je suis allé avec des collaborateurs là, de Boisvert Radio que vous avez connus dans les dernières semaines là, Alexandre, Félix, Antoine et.
Vincent,
exactement.
N'oublie pas Michaud.
Je n'oublie pas notre cher Vincent Michaud. On est allé aux États-Unis, on a vu des matchs de hockey. On est parti juste après le gala de la relève, là, vendredi soir. D'ailleurs, chapeau à l'organisation pour ce magnifique événement. On a voyagé de nuit, on est arrivé samedi à Long Island pour voir le match entre les Islanders et les Jets de Winnipeg, match qui avait lieu à 13h. Donc, on est allé au UBS Arena avec très peu d'heures de sommeil dans le corps. Et après ça, on est allé, après le match que les Islanders ont gagné par la marque de 6-3. Quand même étonnant parce qu'ils jouaient contre les Jets de Winnipeg.
C'est un gros match quand même. Les Islanders n'ont pas la meilleure saison.
Ben
mais ils sont quand même capables de rivaliser.
Mais c'est une équipe qui se bat carrément pour les séries présentement. Là, parce que là, présentement, dans la deuxième position du quatrième as.
Ouais.
T'as les Capitals de Washington qui sont une surprise quand même assez incroyable considérant qu'ils ont été vendeurs à la date limite des échanges, échangés notamment Anthony Manta et Joel Edmondson. Les Islanders n'ont absolument rien fait à la date limite des transactions et veulent faire les séries. On sait avec les joueurs qu'ils ont, avec le changement d'entraîneur qui a été fait, avec Patrick Roy qui est rendu là à la barre de l'équipe, l'objectif c'est clairement les séries éliminatoires.
Et tout est encore possible vraiment.
Ben oui, vraiment.
Dans la métropolitaine, tout peut jouer.
C'est vraiment serré. Là, t'as les Devils du New Jersey qui sont pas encore éliminés non plus. Les Sabres de Buffalo pourraient se pointer le bout du nez.
Ouais, je dirais que même les Flyers, c'est pas sûr à 110% qu'ils sont en série. Là,
puis en plus, t'es la Tortorella, la marre des poignets là-bas.
Oh, oui, c'est
avec l'histoire de Sean Couturier. J'ai hâte de voir comment ça va finir cette histoire-là et comment l'équipe pourrait s'en sortir et faire un bon parcours de séries éliminatoires. D'autant plus qu'ils risquent d'affronter au premier tour s'ils font les séries, soit les Hurricanes, soit les Rangers.
Ouais, c'est sûr. Donc, ça va être difficile.
Ça va être très difficile.
Mais les Flyers, grosse surprise de les voir là. Et encore une fois, tu sais, je regarde le classement de la LNH puis mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est fou. Ils ont pas eu nécessairement beaucoup de changements comparé à l'an dernier. Mm-hmm. Ils ont pas fait nécessairement d'acquisition. tu sais, oui, genre Jamie Dreisel, mais comme il est blessé.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte que les dernières années étaient pas super bons, puis là, cette année, ils se battent pour une place en série.
L'effet Tortorella.
L'effet Tortorella. Ben, peut-être, mais c'est sûr qu'on a des jeunes joueurs qui se développent et tout, mais
genre, des gars comme Owen Tippett.
Ouais, c'est ça.
Travis Konecny continue à se développer également. En plus, on a même perdu Carter Hart. En plein milieu de l'année, t'sais, ça a pas dû faire du bien.
À la police du New Jersey qui a été
London.
De London qui a été changé, ouais.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc,
mais c'est ça, surprenant.
Ouais, ben vraiment étonnant.
Vraiment surprenant.
Puis une autre équipe qui était quand même étonnante, c'est les Jets de Winnipeg. T'sais, on les voyait très peu autant dominants dans l'Association d'Ouest.
Ouais.
Et là, ben là, perdu en fin de semaine contre les Islanders. Et ensuite, je pense que c'est contre les Devils qu'ils ont joué dimanche. Donc, pour vrai, deux grosses défaites pour les Jets.
Ouais.
Ben, c'est dommage pour eux, mais quand même, sont quand même tranquilles en vue des séries éliminatoires. Là. Ils vont pouvoir.
Ben,
ils ont un bon coussin. Là.
C'est sûr, tu sais, je pense que les Jets vont faire les séries, il n'y a pas de problème. Après, c'est que tu te dis, là, en ce moment, les Jets sont troisième de la division centrale. Tu te dis, si on finit troisième, on prend les Stars de Dallas.
Colorado ou Dallas.
Tu sais, c'est comme. Déjà en partant. Ouais. Désolé, ils sont vraiment à égalité, les deux. Fait que, tu sais, c'est comme déjà
surtout
en partant.
Que, Colorado sont en train de perdre, là. C'est 2-1 pour le Canadien.
Et là, là.
Hey, Joël Armia et Nick Suzuki, si je ne me trompe pas, qui ont marqué. Mais ouais, poursuis.
Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, les Jets, ça reste qu'on a une bonne équipe. Moi, encore là, je les voyais pas là. Mais comme ces sections-là, dans l'Ouest, sont tellement fortes. Puis même en série, en général, peu importe qui tu prends, l'équipe contre qui tu joues est extrêmement forte.
Ouais.
Je veux dire, au premier tour, on aurait un Stars-Jets, par exemple.
Ah, c'est sûr que l'équipe qui perd là, aurait pu se rendre plus loin. Là.
C'est clair, c'est sûr. Là. C'est ça, tu sais. Après, quand on voit les Flyers là-dedans, je suis comme, bon... Peut-être que est-ce que le format il devrait peut-être être refait un peu pour je sais qu'avant c'était comme les temps d'équipe
un
de l'association un contre
c'était pas par division c'était vraiment dans
c'est
toute
ça.
L'association
je pense, moi personnellement je suis un petit peu pro de cette formule là parce que ça met il y a plus d'équité tu sais il y a plus de surprises aussi nécessairement fait que je pense que
mais on regarde l'association d'Ouest présentement là, si on retourne à cette formule-là, t'es les Golden Knights risquent de perdre en première ronde, les Oilers vont affronter les Jets en première ronde, t'es les Predators de Nashville qui connaissent une séquence incroyable dans les derniers moments.
Ils vont perdre probablement ce soir.
Ben, ils risquent de pogner Dallas aussi. Donc pour vrai, toutes les équipes en séries éliminatoires ont tous leur chance. Puis on l'a vu l'année passée avec les Panthers de la Floride. Ouais. Là. Ça prend pas grand-chose. Là. Tu peux rentrer en série puis rendu là, tout peut arriver. Là.
C'est incroyable à quel point les équipes qui peuvent être dominantes toute la saison comme les Bruins. Justement, j'étais dans un restaurant bar vendredi, puis il y avait genre des policiers de Boston qui étaient là pour la Saint-Patrick. Puis eux autres, des grands fans des Bruins, puis c'était très cool de leur parler. On les a niaisés un peu. Mais tu sais, c'est fou avoir justement des. On leur a demandé, c'est quoi qui a fait le plus mal entre la défaite, la Coupe Stanley contre Saint-Louis? Ou encore la défaite en première ronde contre les Panthers l'année dernière.
Ouais.
Et là, définitivement, c'était la défaite en série finale de la Coupe Stanley. Mais c'est fou à quel point les séries éliminatoires, c'est complètement un autre... un autre monde. Parce que, tu sais, t'arrives, c'est du jour au lendemain. C'est un style de jeu complètement différent. Les Panthers sont arrivés, ils plaquaient tout bord, tout côté. Et je veux dire, ils étaient opportunistes. Puis après, c'est comme... Quand t'as comme aucune pression, comme les Panthers avaient aucune pression, ils prenaient les Bruins puis c'était qualifié sur la peau des fesses. T'sais. Après, t'as aucune pression, tu te dis qu'est-ce qu'on a à gagner? Tout. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout. Ouais. Fait qu'après, c'est bien plus facile de jouer de même. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en compte qu'après, en série, c'est totalement différent. Puis à toutes les années, c'est tellement le fun de voir les meilleures équipes ne pas gagner. Moi, j'aime ça, ça.
Le partisan en août, t'es là, le Canadien, ils feront pas les séries. Là, donc, c'est sûr que voir les fameux underdogs, grosses victoires, aller chercher des séries, puis t'es comme c'est arrivé avec les Panthers l'année passée, se rendre très loin. C'est toujours intéressant à suivre. Et je veux qu'on parle également de déception cette saison, parce que samedi soir, après avoir vu le match à Long Island, on s'est déplacé du côté de Newark.
Une belle journée, quand même.
On est allé au Prudential Center voir le match entre les Sénateurs d'Ottawa et les Devils du New Jersey. Les Devils, qui au début de la saison, certains observateurs les voyaient comme prétendants dans la division métropolitaine. Finalement, ils sont même pas dans le portrait des séries présentement. Ouais. Et la façon dont ils ont joué samedi soir contre les Sénateurs d'Ottawa, qui sont une autre des énormes déceptions cette saison, complètement terrible. On voyait pourquoi cette équipe-là n'est pas dans le portrait des séries présentement. Ils ont mal joué. Jack Hughes a joué solo toute la soirée. Les buts, ça rentrait facilement contre notre cher Jake Allen. Et les Sénateurs ont gagné 5-2.
Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ça, toi, tu dois quand même être content de voir les Sens, qui est ton équipe.
Ben oui, puis non, parce que là, je les vois gagner. Puis là, je suis comme, moi, je veux ma Clint Celebrini.
Ouais, non, évidemment, c'est sûr. Mais comme, ça reste que c'est toujours le fun de voir une victoire de son équipe. Mais en effet, là, les Devils, c'est quand même une grosse déception au moto. L'année dernière, tu sais, je les voyais jouer, puis j'étais comme, hey, ils sont jeunes, ils ont de la fougue, ils font des grosses acquisitions, ils sont allés chercher Timo Meier, ils sont là. Puis comme au début de l'année, je vais chercher Jesper Brad dans mon pool, je me dis, astiche, ils vont être forts cette année, les Devils. Puis encore, à date limite des transactions, on s'en va chercher un Jake Allen. On fait quand même des moves pour espérer être en série. À mon avis, c'est pas fini pour les Devils, ils peuvent quand même encore se qualifier. Encore,
mais ça va être compliqué. Là,
mais avec des joueurs de talent comme ça, tu sais jamais. Ils peuvent commencer à gagner plusieurs matchs d'affilée, se classer pour les séries finalement. Mais en effet, là, ça reste que c'est extrêmement décevant, surtout quand tu regardes les équipes qu'il y a devant toi. Tu sais, t'as les Islanders, t'as les Caps, t'as les Flyers. Je peux pas croire et peux pas concevoir que les Devils sont même pas capables de être plus haut que ces trois équipes-là.
Ouais. Ben alors, ce soir, ils s'enlignent pour battre les Maple Leafs de Toronto, ce qui les rendrait à 5 points d'une place en série avec 9 matchs à jouer. Donc, c'est faisable pour les Devils, mais quand même, ils ont mangé une méchante claque samedi soir contre les Sénateurs. On s'y attendait vraiment pas.
Non, c'est ça. Comme vous m'aviez dit ça, je misais sur une victoire des Devils quand même assez facilement, mais finalement, c'est 5-2, je crois que ça a terminé.
5-2 pour les Sénateurs. Et finalement, sur le chemin du retour, dimanche, un petit match qui opposait plusieurs Québécois dans la Ligue américaine, entre le Crunch de Syracuse et les Bruins de Providence. À Providence, évidemment, des gars comme Anthony Richard sont là, Frédéric Brunet, Vincent Arsenault du côté des Bruins, du côté du Lightning, Daniel Walcott, Alex Barré-Boulet, Gabriel Fortier, plusieurs anciens joueurs de la LHMQ qui se développent. Sean Element aussi, un ancien invité de Boisvert Radio qui malheureusement n'était pas en uniforme dimanche. Donc il y a plusieurs Québécois, c'était bien le fun de voir ce match-là là, dans le bel aréna à Providence. Beaucoup d'ambiance, c'était bien le fun. Puis on est revenu chacun avec une calotte gratuite des Bruins. Donc on la portera pas, mais quand même, c'est un beau souvenir. Je regarde l'heure passée, c'est maintenant le temps de conclure l'émission. Merci mon cher Mathis d'avoir été là ce soir.
Ben merci à toi Charles, de l'invitation, ça m'a fait plaisir d'être là, ça a été bien plaisant comme d'habitude.
Je vous rappelle que vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram, et également la rediffusion de l'émission de ce soir va être sur Spotify et sur Apple Podcast. La semaine prochaine, on se retrouve pour une prochaine émission et on va recevoir Chloé Corbeil, une joueuse de flag football à l'UQAM. Donc voilà. Ouais, c'est ça, Bou l'UQAM. Quand même, on va recevoir Chloé la semaine prochaine. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, mesdames, messieurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.